Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour, Pascal Pro. Bonjour à tous. Qui pour succéder à Mohamed Mbougar-Sarr, le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, sera annoncé dans 3 quarts d'heure. C'est toujours un événement et ce sera évidemment à vivre sur RTL et dans LVT Midi. Dans l'actualité également, encore un 49.3 sur le budget pour le gouvernement, comme un parfum de déjà-vu. Mais ça va durer jusqu'à quand? On vous dit tout. L'exécutif qui défend une immigration pragmatique avec son projet de loi. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui en France quand on parle immigration? De qui plutôt? Il y a plus de 5 millions d'étrangers aujourd'hui dans le pays. On y revient en longueur à 12h40. Plus de 4000 signalements à la Miviludes l'an dernier pour dérives sectaires. Un chiffre en nette hausse, plus 33%. Et le Covid n'y est probablement pas étranger. On y revient longuement après le journal. Enfin, Corentin Moutet, victoire au bout de la nuit à Bercy pour l'enfant terrible du tennis tricolore.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour l'Alsace où, face à la flambée des prix de l'énergie, un restaurateur a pris une décision radicale. Il va fermer, et ça pendant 6 mois. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Le salon du tatouage Tattoo Planétarium revient demain à Paris après 2 ans d'absence. Alors qu'un Français sur 4 est tatoué. Nous serons avec l'artiste Tintin, l'un des plus célèbres tatoueurs français. Le tatouage, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. C'est simple, est-ce que vous aimez les tatouages?
Bien sûr, j'ai fait un tatouage. J'aime Céline Landreau sur...
Où ça?
Sur mon bras. Nous pourrons évidemment évoquer tous ces sujets entre 13h et 14h30 et puis revenir sur cette phrase « Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils », c'est la phrase de Monsieur Darmanin.
Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Du vent, de la pluie et des températures en baisse.
Merci Peggy, cette fraîcheur, elle est difficile déjà à supporter pour ceux qui, contraints de faire des économies, refusent d'allumer leur chauffage pour l'instant. C'est le cas de Leïla, 62 ans, elle est aide-soignante à Tours.
Je vais faire des efforts parce que j'arriverai pas à payer une facture aussi élevée. Avec 100 chauffage, je la paye à 85 et plus. Alors donc, utiliser les deux chauffages, celui de la chambre et celui de la cuisine, alors je pourrais pas. Et quand je sors de chez moi maintenant, j'éteins tout. Il n'y a que le frigidaire qui marche. Hein. Si je suis dans la cuisine que je suis en train de préparer, je vais m'en passer du chauffage. Je vais rentrer l'allumer quand je suis au lit, histoire de réchauffer la pièce et après je vais éteindre. Je ne vais pas faire plus. Il y a les couvertures, et je vais bien me couvrir, bien m'habiller au lieu de dormir comme on dormait avant. On va se priver, oui, cet hiver, on va se priver, ouais.
Un propos recueilli par Christian Panfer et mauvaise nouvelle pour Leïla, Peggy, le froid, ça va durer.
Ben, en tout cas, demain, un bon rafraîchissement, retour à des températures de saison, voire un peu en dessous, même par endroit.
Merci Peggy, la météo complète, ce sera à la fin du journal.
RTL Midi.
C'est le grand rendez-vous annuel de la littérature française. Le prix Goncourt, la plus prestigieuse des récompenses pour un roman français, sera décerné dans moins de 3 quarts d'heure maintenant.
Et comme chaque année, Bernard Lehus, c'est au restaurant Drouan à Paris, où vous êtes déjà, que le nom du lauréat sera proclamé.
Oui, la fièvre monte tout doucement ici. Les médias, télé, radio sont déjà sur place. Il y a beaucoup de curieux aussi. C'est toujours exceptionnel de voir cet engouement pour un prix littéraire. C'est très français comme phénomène. Depuis maintenant une demi-heure, les 10 académiciens Goncourt sont réunis dans la salle à manger au premier étage de chez Drouan. Ils délibèrent. Et donc le verdict, vous l'avez dit, à 12h45, et en général ils sont très ponctuels. Il faut rappeler aussi que le Goncourt c'est un énorme enjeu économique, 400 000 exemplaires en moyenne pour le livre lauréat, souvent plus. Hein. L'an dernier, Mohamed Mbougar-Sarr a vendu plus d'un demi-million d'exemplaires de son livre. Voilà, tout est prêt, rendez-vous à 12h45.
Un favori quand même,
grand
Bernard.
Escalier de chez Drouan. Un favori, alors cette année c'est un peu compliqué. Parce que le favori, celui qui faisait figure de favori, c'était Giuliano d'Ampoli, l'auteur du Mage du Kremlin, hein, consacré à un conseiller occulte de Poutine. Mais il a eu la semaine dernière le prix de l'Académie française, donc ça rebat un peu les cartes. On verra. Allez, moi, à titre personnel, parce que j'aime beaucoup ce livre et cet auteur, je parie pour Vivre vite de Brigitte Giraud. Mais on verra, hein, les Goncourt nous réservent souvent des surprises. Vous le savez, Pascal.
Ce sera en tout cas à 12h45, hein, la proclamation du lauréat. Et ce sera avec vous, Bernard Lehus, à tout à l'heure. Donc.
Comme un parfum de jour sans fin à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a dégainé à nouveau hier le 49-3. On l'appelle déjà Madame 49-3.
Oui, puisque c'est la quatrième fois depuis le début de l'examen des budgets que la Première ministre a recours à cet article qui lui permet, on le rappelle, d'engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter un texte sans vote. Quatre fois, donc déjà, autant d'occasions saisies par les oppositions pour déposer des motions de censure. Et on se demande, Marie Mollet, combien de temps tout cela va durer ?
Eh bien, préparez-vous, Céline, parce que cela va durer comme ça jusqu'à Noël. Parce que le gouvernement peut utiliser le 49-3 autant de fois qu'il le souhaite sur les textes budgétaires, à chaque lecture, à chaque volet, recettes, dépenses. Donc on peut s'attendre facilement à une dizaine de 49-3 d'ici décembre, entre le budget et le budget de la sécurité sociale. Mais attention, il y a une date limite. Tout s'arrête le 18 décembre, au moment de la suspension des travaux à l'Assemblée, car le budget doit obligatoirement être adopté en 70 jours pour que les textes entrent en vigueur le 1er janvier à minuit. C'est en fait après que les choses sérieuses vont vraiment commencer, puisque mis à part les textes budgétaires, l'exécutif ne peut dégainer qu'un seul 49-3 par session, une seule cartouche qu'il faut très bien choisir. Alors est-ce que ça sera sur le projet de loi immigration ou plus probablement sur les retraites ? Ça c'est tout le dilemme pour le gouvernement quand il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée.
Marie Mollet du service politique d'RTL, justement à propos de l'immigration, Marine Le Pen dénonce le risque d'une aggravation des filières clandestines après les annonces hier par l'exécutif des grandes lignes de ce projet de loi immigration, notamment la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension pour faciliter le recrutement de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs qui peinent à recruter. Quels sont les chiffres aujourd'hui de l'immigration en France ? On va revenir longuement sur ce sujet à 12h40.
RTL Midi.
Le sport est l'enfant terrible du tennis français qui régale le public à Bercy.
Au bout de la nuit, Corentin Moutet s'est offert un premier huitième de finale en Masters 1000 en venant à bout du Britannique Cameron Norrie. Dernière balle à 2h52 ce matin quand même.
Est-ce bien raisonnable ?
Bah, on va poser la question à Isabelle Langer qui a veillé à tard. Un petit exploit donc Isabelle pour un joueur sanctionné il y a quelques jours par la fédération pour son mauvais comportement.
Oui, il a d'ailleurs été évincé pour cela des structures fédérales. Il perd ainsi des aides financières et son coach qui dépend de la FFT. L'attitude du francilien de 23 ans est loin d'être irréprochable sur les cours à Orléans en septembre. Vous pouvez peut-être entendre l'ambiance derrière moi. Il a failli en venir aux mains avec son adversaire. C'est l'arbitre qui a dû les séparer. Une autre fois, il s'en est justement pris à l'homme sur la chaise à la fin d'un match. Écoutez.
Tu dois te faire respecter. Il a mis une minute entre les points. C'est fantôme, ça. Franchement, tu te ridiculises. Là, on peut te marche dessus, il te roule dessus.
Voilà, pour certains, la décision de la fédération peut être un mal pour un bien, pour Corentin Moutet, lui permettre de grandir un peu dans son attitude. Car à côté de ça, le garçon est plutôt talentueux sur un court. Il pourrait même, en cas d'exploit ce soir contre le grec Tsitsipas, eh bien devenir le nouveau numéro 1 tricolore au classement. Et pour ses proches, surtout, Corentin Moutet est un écorché vif qui n'aime pas l'injustice. Pianiste émérite, artiste dans l'âme, il se met d'ailleurs souvent à nu dans ses chansons. Écoutez-le.
Tourné vers la critique, le sang coule sur mes pros et mes pros coulent sur mes nuits vides. Il est minuit 10, la lune est clairement esprit, un jour j'aurai de l'estime et ce soir mon âme s'exile. Je suis tout seul dans la porte, mais pas tout seul dans ma tête. Quand le soir je ferme la porte, je me retrouve face à face à moi-même. Tout seul dans la porte, mais pas
Corentin.
Tout seul.
Corentin,
et c'est lui qui chante, donc il chante.
Oui, c'est lui qui chante. Il est auteur, compositeur, interprète.
Bah écoutez, c'est McEnroe, il était pas toujours sympa sur un cours, et puis c'est un
exactement
champion.
Exactement.
Eric Cantona non plus.
Il gagne à être connu.
Eh bien, on va le suivre, en tout cas, avec vous aujourd'hui.
Exactement, on a besoin de stars dans le sport.
Merci, Isabelle Merci. Langer.
À tout à l'heure. On faut suivre Gilles Simon cet
exactement,
après-midi.
Exactement, c'est
même,
ce que j'allais dire. Hein. Gilles Simon, pas pressé de prendre sa retraite. Il s'est qualifié lui aussi hier, Isabelle. Il joue contre le Canadien Ogé Aliassime, c'est ça ?
Oui, qui est l'homme en forme de la saison. Il vient de remporter 3 tournois consécutivement. Et nous a dit hier Gilles Simon que s'il devait perdre contre lui, ce serait bien parce que c'est un grand monsieur, même s'il est jeune ce joueur. Franchement, il gagne à être connu lui aussi par le grand public.
Décidément. Merci beaucoup Isabelle Langer. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour... Un après-midi un peu agité, hein, vous nous avez
dit. Même bien agité, avec beaucoup de vent sur l'ensemble du pays, et notamment les rafales de vent les plus fortes sur l'Aquitaine, avec 90 km/h, mais on a même du 70 km/h à l'intérieur des terres. Un temps bien agité et bien pluvieux, alors un bon cumul de pluie entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Pyrénées, avec localement des pluies soutenues également du côté de la région PACA, avec quelques coups de tonnerre possibles cet après-midi, de la neige en haute montagne également sur les Alpes et les Pyrénées. Bref, printemps agité. La Bretagne et la Normandie devraient retrouver quelques petites éclaircies, mais toujours quelques averses. Et à l'écart de ce mauvais temps, la Corse, où c'est un temps sec et lumineux. Les températures, elles sont en baisse, mais toujours au-dessus des normales. De 13 à Rouen à 24 à Ajaccio. 15 cet après-midi à Metz, 16 à Paris, 17 à Lyon, 18 à Nîmes, 20 à Toulouse, 21 à Marseille et 22 à Perpignan.
Merci.
RTL Midi, un jour chez vous.
Notre Tour de France quotidien.
Et aujourd'hui, nous partons pour l'Alsace. Pascal, bonjour Yannick Collant.
Bonjour.
Vous nous emmenez à Metzral, au fond de la vallée de Münster, où un hôtel-restaurant a dû prendre une décision radicale. Face à la hausse des prix de l'énergie, au manque de personnel, eh bien les propriétaires vont fermer l'établissement pour 6 mois. Il ne rouvrira qu'en mai, Yannick.
Et oui, Frédéric Kempf est à la tête de l'hôtel Aux Deux Clés et de son restaurant, les Clarines d'Argent. Il a été forcé de prendre cette décision après avoir signé ses nouveaux contrats d'électricité et de gaz au pire moment, au mois d'avril, à des tarifs exorbitants.
C'est un gros crève-cœur, surtout que ça fait 25 ans qu'on est là. On a vu qu'on passait à 525 € le mégawatt en électricité, ce qui est faramineux pour une petite entreprise comme nous. Donc on passe de entre 18 000 et 20 000 euros à 60 000, 62 000 euros d'électricité par an. Et le gaz, on passe de 18 000 à 40 000, 42 000. Vaut mieux fermer que travailler pour rien.
Dans la salle à manger, Albert et Marie-Thérèse ont fait 40 km pour venir profiter du restaurant une dernière fois avant la fermeture.
Bien 2-3 fois dans l'année. Et donc moi, ça m'a fait quelque chose quand j'ai lu l'article dans le journal.
C'est triste pour tout ce qu'ils ont fait déjà depuis 15 ans. Combien ils sont de la peine. C'est vraiment dommage pour le tourisme.
Dans cet hôtel-restaurant familial, même incompréhension pour Jean-Martin, le père de Frédéric, qui lui avait dirigé l'établissement pendant 27 ans et qui continue de donner un coup de main aujourd'hui.
C'est dur, croyez-moi. Moi, ça me fout les boules. Je ne comprends pas qu'on puisse multiplier quelque chose par 10, qui est tellement à la base de tout. L'électricité, c'est fou. Faudrait un bouclier, comme pour les privés.
La comptabilité a fait le calcul. Si l'hôtel-restaurant reste ouvert, cela fera un déficit de 42 000 euros à la fin de l'hiver, rien que pour l'énergie.
Yannick, il n'y avait vraiment aucune autre solution ?
Eh bien, en fait, c'est compliqué parce qu'on est à Metzeral, vraiment en fond de vallée, un peu isolé, ce qui rajoute une deuxième difficulté pour l'établissement, le manque de personnel. Frédéric Kempf.
Voilà, il me manque 2 personnes en salle, une plongeuse et un aide de cuisine. Le week-end, on ne peut plus remplir toutes les tables parce qu'on n'a plus assez de personnel. Donc on ne peut pas dire on fait beaucoup le week-end pour enflouer la perte de la semaine. C'est aussi pour ça que la décision s'est prise.
L'autre solution, ça aurait été d'augmenter toute la carte de plus de 35%. Et là, évidemment, ce serait intenable pour les clients.
Mais alors Yannick, que vont devenir les employés ?
Eh bien, 2 d'entre eux vont être au chômage partiel pendant l'hiver. 2 autres pourront continuer à travailler grâce à une petite activité traiteur qui avait été mise en place pendant le confinement. Et les patrons, Frédéric et sa femme Séverine, partiront pour travailler tout l'hiver dans une station alpine en tant qu'employés dans un autre restaurant. Alors, ils le promettent, ils seront de retour au mois de mai prochain. Certains clients ont même déjà réservé leur table pour la réouverture.
Merci beaucoup Yannick Collant en Alsace donc pour RTL.
Et comme tous les jours, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité dans quelques secondes. Les dérives des sectes dans un instant.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Sur les réseaux sociaux, elle discutait avec une personne en particulier en lui disant par message que c'est l'état profond qui est en train de... qui sont des pédosatanistes.
Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL ce témoignage, celui de Julien dont le couple a explosé à cause, dit-il, d'un gourou qui a embrigadé sa femme. Illustration de ce chiffre rendu public par la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires. Le nombre de signalement a augmenté de 33% l'an dernier. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
Vous êtes reporter à RTL, c'est vous qui avez recueilli ces témoignages de Julien. Ce qu'il raconte d'abord, c'est un éloignement progressif de sa femme et tout commence au moment du Covid.
Oui, absolument. Et plus précisément, avec une méfiance envers ce vaccin contre le Covid, car sa femme est infirmière et elle a en fait refusé de se faire vacciner. Et lorsqu'elle était suspendue, elle s'est retrouvée au chômage. Elle a passé ses journées à écumer des vidéos anti-vax, notamment sur YouTube. Et elle s'est enfermée dans cela. Et c'est là qu'elle a fait la rencontre au début virtuelle de ce que son mari appelle un gourou.
Donc Valentin, tout se joue sur Internet.
Absolument, sur les réseaux sociaux et notamment sur des réseaux qui lui donnent raison. Ce fameux gourou, entre guillemets, c'est un homme qui va la contacter sur LinkedIn. C'est un réseau social destiné aux professionnels. Il va lui dire qu'il la soutient dans sa démarche anti-vax, mais aussi prononcer cette phrase: nous avons besoin de toi pour construire le nouveau monde, celui des non-vaccinés. Et c'est là que la bulle va progressivement se refermer.
Et votre témoignage a été évidemment extrêmement fort ce matin parce que très vite, Julien sent que sa femme bascule.
Oui, tout va devenir secret dans leur couple. Ils ne vont plus se parler alors qu'ils habitent sous le même toit. Ils ont même un enfant de 3 ans ensemble. Et pendant 8 mois, elle va se mettre à faire des achats à la demande de cet homme. Elle va notamment acheter un correcteur d'énergie corporelle. Puis elle va lui annoncer qu'elle le quitte, car je cite encore une fois, elle doit faire ce qu'il lui est demandé de faire. Désormais, il y a une procédure de divorce en cours, car elle souhaite vivre avec cet homme.
Valentin, ce que vous avez recueilli, c'est un témoignage parmi d'autres. On le disait, plus de 4000 signalements ont été recensés l'an dernier. C'est 33% de plus qu'en 2020. Le Covid, la pandémie, ça a été un point de bascule pour beaucoup ?
Oui, parce que le Covid, ça touche à la santé, ça touche à l'intime, ça nous faisait tous un petit peu peur et on a perdu certains repères et surtout, pendant une longue période, on a été enfermés avec nos écrans. Alors tout ça, c'était le cocktail parfait et certains en ont profité pour jouer sur ce sujet sensible et sur les méfiances en instiguant une forme de défiance dans les esprits.
Et derrière tout ça ? Souvent, des tests complotistes.
Oui, l'exemple de Julien était assez pur hein, dans ce sens-là. D'une méfiance contre le vaccin, on bascule ensuite vers des théories sur les secrets de l'État. Puis de là, cet homme indique sa volonté de vivre dans une société parallèle. Et c'est là que l'emprise va se créer. Car si tout cela reste au début virtuel, ça peut basculer ensuite dans le monde réel.
Alors en plus, là, si j'ai bien compris, il y a une liaison amoureuse.
Absolument.
Entre donc cette femme et ce gourou.
Absolument, il va d'abord lui demander de vivre avec elle, ce qu'elle va accepter, et aujourd'hui ils sont en couple.
Alors comment faire évidemment si des gens qui nous écoutent ont une personne dans leur entourage qui est touchée, comment on peut agir ?
Légalement, c'est un peu compliqué parce que prouver un abus de faiblesse n'est pas toujours très simple. Parfois, il n'y a même absolument rien de répréhensible. C'est d'ailleurs ce que me disait Julien. Ces personnes, elles agissent parfois au nom de la liberté de conscience. La manipulation mentale, c'est un sujet assez flou. Le mieux, si on constate une emprise dans votre entourage, c'est d'aller vers des associations comme l'ADFI. C'est une association de défense des familles d'individus victimes de dérives sectaires. C'est un peu long. Ce qu'ils font, c'est qu'ils accompagnent les conjoints, les frères, les sœurs sur comment maintenir un lien affectif et combattre cet isolement.
Merci beaucoup Valentin Boisset. Je rappelle que le témoignage de Julien, il est à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. Merci beaucoup.
On va parler du tatouage dans un instant et si vous êtes parent, vous êtes peut-être ennuyé quand votre enfant qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans émet l'idée de se faire tatouer.
Comment ça sent un peu le vécu, non ?
Comment vous devez réagir et si votre enfant revient régulièrement avec de nouveaux tatouage, alors que Tintin est en train d'entrer dans ce studio. Alors vous êtes tatoué des pieds jusqu'à la tête, quasiment. Il n'y a que la tête précisément qui est épargnée.
J'en ai pas mal.
Bon, on va en parler avec vous précisément. Et après une pause, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, vous l'avez compris, car l'info, c'est ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manières.
Un dur, un vrai, un
c'est qui chante
tatoué.
Ça
Fernandel.
Fernandel. Bah oui, mais toute la France, vous savez, les jeunes aujourd'hui, je sais pas s'ils savent qui est Fernandel. Hein.
Bah, c'est quelqu'un qui jouait Don Camillo. Ça
oui,
nous rajeunit
oui.
pas. Hein.
Vous l'appelez Don Camillo, on disait Don Camillo à l'époque. Mais c'était il y a 50 ans, il est mort en 70, je crois, Fernandel.
Un tatoué, un dur, un vrai, donc
oui.
Ça, c'était avant, puisque le tatouage, aujourd'hui, s'est démocratisé. Un Français sur quatre tatoué. Féminisé aussi, 16% de femmes tatouées contre 11% d'hommes, plus de femmes, donc.
Ah oui.
Et pour en parler avec nous,
16% des femmes sont tatouées en France.
Oh, il y en a plus, mais on est, ça, c'est un vieux sondage, hein, je crois. Il y en a même, on est pas loin de 20, là. On n'est pas loin de 20% pour hommes comme femmes, je crois. Un peu plus de femmes que d'hommes, certes.
Donc Tintin, on vous présente quand même pour ceux qui ne vous connaissent pas. Certains ne connaissent pas Fernandel, d'autres ne connaissent pas Tintin. Vous êtes l'un des plus célèbres tatoueurs français.
Il y a des faux airs d'Éric Dupond-Moretti, si vous me permettez.
Eh ouais, malheureusement.
mais effectivement.
Donc vous n'êtes pas garde des Sceaux, vous êtes l'un des organisateurs du salon Tattoo Planétarium qui commence demain à la Grande Halle de la Villette à Paris. On entendait cette chanson de Fernandel sur une vieille vision du tatouage. Ça s'est beaucoup démocratisé, ça a beaucoup changé aujourd'hui l'image qu'on a du tatouage.
Oh bah oui, ça concerne tout le monde. Ça a toujours concerné tout le monde, mais dans des telles proportions aujourd'hui. Et puis c'est exponentiel. Il y en a de plus en plus de tatoueurs, de plus en plus de tatoués. Donc
ça concerne pas tout le monde. Ça concerne une génération. Les gens de plus de 50 ans que je connais sont rarement tatoués dans l'univers professionnel. Je pourrais citer beaucoup de journalistes ici qui ont passé 50 ans. Il y en a aucun qui a un tatouage.
C'est quand peut-être même que vous ne le savez pas.
Non, mais quand je dis tout le monde, c'est-à-dire pas tout le monde, forcément, puisque c'est que 20% de la société. Mmh. Mais quand je dis tout le monde, c'est fatalement toutes les couches de la société. Certains journalistes, certains hommes politiques, mmh. certains flics, certains voyous. Voilà, forcément pas tous. Mmh.
Et ça n'a plus cette connotation, vous parliez des voyous, dans l'imaginaire longtemps le tatoué c'était
un voyou,
le marin,
un bagnard,
le retrait de justice.
Ouais. Ça dans l'imaginaire collectif, étant donné que, c'est ce que je dis toujours, comme les personnes préférées des Français dont le sondage un peu aléatoire sort chaque année, sont souvent tatouées, notamment Cadmerade, Yannick Noah, Pascal Obispo, Florent Pagny, voilà, c'est des gens qui sont appréciés de la société, qui vendent pas mal de disques et qui ont des tatouages.
Mais est-ce que trop de tatouages ne tue pas le tatouage, parce que
c'est une bonne question.
Il y a un moment, moi j'ai l'impression que c'est une addiction. Là, je vois vos bras je ne vois que vos bras. Vous êtes entièrement tatoué sur tout le corps?
Pas tout le corps, mais j'en ai pas mal, oui. Et puis il y a des gens qui en ont sur tout le corps, effectivement.
Mais ça s'arrête ou vous imaginez encore en faire davantage?
Moi, j'en fais sur les autres, en fait. C'est plutôt comme ça que j'exorcise. Je ressens pas un besoin de me remplir le corps en entier à tout prix. Il y a certains qui en ressentent le besoin. Tant qu'ils auront un centimètre carré de peau vierge, ils chercheront à le recouvrir. Oui, c'est effectivement une sorte d'addiction, on peut parler de ça. Mais une addiction à l'art, c'est une belle addiction quand même. Qui vous cause pas de maladie, qui fait de mal à personne et qui peut être très joli à regarder.
Vous parlez du tatouage comme d'un art. Il y a des modes aussi, d'une certaine manière, un peu comme dans la couture. Il y a eu la période tribale, par exemple. C'est quoi la tendance aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà moins vrai? Est-ce qu'il y a moins des phénomènes de mode massif?
Il y a quelques modes de motifs. Ça, c'est un peu dommage, parce que voilà, le tatouage et le mode, ça a toujours été antinomique, mais il y a certains styles qui reviennent et qui deviennent séculaires, et il y a certains motifs qui passent, comme le tribal, qu'on voyait beaucoup, le fameux bracelet tribal, ou voilà, dans les
chaque décennie,
ben, ça se fait plus, non, effectivement. Mais il y a encore des gens qui font une certaine sorte de tribal, qu'on appelle aujourd'hui l'ornemental, voilà, des néologismes qui apparaissent.
Je pense aux parents qui nous écoutent. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de décider à 15, 16 ou 17 ans d'avoir un tatouage qui va vous suivre parfois toute la vie. Et peut-être que ce tatouage à 15, 16, 17 ans que ces jeunes font dans leur jeunesse, ben, ils vont le regretter plus tard. Et peut-être ne pourront-ils pas le faire disparaître.
C'est certain risque, effectivement. Il y en a qui pourront le regretter. Il y en a qui pourront le recouvrir aussi, parce qu'ils regretteront peut-être pas le tatouage, mais le sujet du tatouage, le motif du tatouage, ou plus bêtement, le tatoueur. Parce qu'on s'est fait tatouer par un tatoueur qui était super nul.
Est-ce qu'on peut les enlever, ces tatouages?
Oui, il y a des nouveaux lasers, mais à la base...
complètement, ou ils restent quelque chose?
Faut pas que ça soit des trucs qui ont été faits trop par des professionnels. Effectivement, si vous faites faire tout le dos par un professionnel, ça va coûter quelques centaines de milliers d'euros pour vous le faire retirer, puis quelques années, parce que ça dure longtemps. Faut des fois 10, 15 passages de ce laser. Ça coûte très cher. Donc, à la base, le tatouage, c'est pas fait pour être enlevé. Et donc, le fait qu'on puisse pas l'enlever si facilement.
Quelqu'un vient, vous, est-ce que vous prenez vos précautions? Est-ce que vous lui dites, est-ce que t'es vraiment sûr de ce tatouage?
Plus la personne est jeune, plus on a un devoir d'intervenir, a fortiori si on pense que ce tatouage, voilà, un message. C'est les tatouages à message.
Vous demandez, par exemple, si les parents sont au courant avant 18 ans? Est-ce que tes parents sont au courant?
Non, mais non seulement c'est pas on demande s'ils sont au courant, c'est quand ils viennent prendre rendez-vous, il faut qu'ils viennent avec leurs parents. Voilà, moi c'est comme ça que je fais en dessous de 18 ans. Et bien souvent, oui, les parents viennent avec au moment du rendez-vous. Il y a des gens qui ont des courage aussi, parce qu'on pense que c'est pas le bon moment. Et puis, après, il faut pas refuser de but en blanc. Vaut mieux éduquer les gens plutôt que de refuser de but en blanc, parce qu'ils vont aller chez un tatoueur qui a beaucoup moins de scrupules que vous et qui travaillera peut-être moins bien. Donc, autant lui faire quelque chose de joli en l'influençant.
Et le visage, parfois, c'est curieux.
Je suis d'accord avec vous. Il y a un certain jusqu'au boutisme pour une certaine couche de personnes. Ben, c'est comme ça.
Céline voudrait se faire tatouer RTL.
Oui, pourquoi pas. Mais il a dit, Tintin, il faut bien réfléchir à son message. Je vais me laisser encore un peu de temps, Pascal, quand même.
Bon, en tout merci cas, merci beaucoup. Merci, parce que c'était sympathique et vraiment, vous avez une figure étonnante, si vous me permettez.
Et on n'oublie pas que le tatouage, c'est un art, et donc il y a le.
Bien sûr. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu un sondage qui dit qu'un Français sur deux considère que le tatouage est un art, plus d'un Français sur deux.
Il est où ce salon?
Il est à la Grande Halle de la Villette.
Et vous êtes où? Vous tatouez où?
Ah ben moi, j'organise. Alors, je vais pas tatouer ce week-end, mais par contre, je reçois plus de 500 à la Grande Halle de la Villette.
D'accord. Bon, bah écoutez, Tintin, si vous voulez vous faire tatouer par Tintin, allez-y, 12h29, la pause.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Nous avons une discussion avec Peggy Broche et à juste titre, elle me dit, mais Pascal, les gens qui ont plus de 50 ans se tatouent quand même. J'ai plein d'amis, me dit-elle. Donc je fais part à l'auditeur des réflexions que nous avons.
Vous n'avez pas
donc,
les mêmes amis, visiblement.
Mais manifestement, non, nous n'avons pas les mêmes amis, mais sachez que je le regrette. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, bah, figurez-vous qu'il est 12h31.
RTL Midi. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h31, spécialement pour les amis de Peggy Broche, c'est la grande édition de la mi-journée avec Céline Landreau.
Pour tous les autres aussi. Elles étaient jusque-là très prisées. Les voitures hybrides sont à leur tour victimes de désamour. Les ventes ont reculé de plus de 8% cet été en Europe. À quoi joue Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur omniprésent? Et c'est loin d'être innocent. En première ligne notamment sur l'immigration. Mais de quoi parle-t-on d'ailleurs quand on parle immigration? Plus de 5 millions d'étrangers dans le pays aujourd'hui. On revient sur tous ces chiffres après le journal. Dans ce journal également, l'inquiétude des États-Unis sur une possible frappe nucléaire russe en Ukraine. Céline Dion qui donne rendez-vous à ses fans dans les salles de cinéma l'an prochain. Et puis, le grand rendez-vous culture de la journée, évidemment, dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant, l'annonce du prix Goncourt 2022. On va suivre ça avec Bernard Lehuis et puis on y reviendra en longueur évidemment juste avant 13h dans LVT midi. On en parlait à l'instant, c'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Pascal, a priori non, mais vous, aimez-vous les tatouages? Vous pouvez répondre.
Et évidemment, on parlera de tous ces sujets avec les auditeurs à partir de 13h.
La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche, mais déjà un lundi.
Bien agité, bien perturbé, bien pluvieux.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'était jusque-là l'un des produits vedettes du secteur automobile, celui qui résistait malgré la crise. Mais à son tour, la voiture hybride est victime du désamour des Français, des Européens, même Martial You. Les ventes s'effondrent.
Ben oui, alors plus précisément, ce sont celles des hybrides rechargeables, c'est-à-dire le modèle où vous branchez la voiture pour charger la batterie et puis vous roulez après une cinquantaine de kilomètres en mode électrique. Ensuite, vous basculez sur le moteur thermique. C'était censé être le meilleur des deux mondes, mais c'est devenu un piège aux yeux des conducteurs. Les ventes baissent en Europe, ça c'est une première, mais particulièrement en France et en Italie. En France, elles chutent les ventes de 14,3% sur les derniers mois. D'abord, ces modèles sont plus chers que les thermiques, 10 000 euros en moyenne de plus, et les prix ont progressé de 20% ces derniers mois. Ensuite, ces modèles sont plus lourds puisqu'ils embarquent de grosses batteries et donc ils consomment plus en moyenne, parce que finalement, vous roulez assez peu en modèle électrique. C'est juste une alternative, en fait, au diesel pour rentrer dans les grandes villes pour l'instant. Et c'est vraiment ce type de modèle qui est délaissé parce que les ventes de voitures électriques, elles continuent de progresser assez fortement.
Merci beaucoup, Martial You.
Il est partout. Il monte au créneau contre l'éco-terrorisme, promet de faire le tri entre les gentils et les méchants immigrés. Mais à quoi joue Gérald Darmanin?
Le ministre de l'Intérieur est sur tous les fronts depuis la rentrée. Une omniprésence, Olivier Bost, qui est très calculée.
Oui, Gérald Darmanin en fait anticipe des moments toujours plus difficiles pour lui. Il y a les événements qu'il subit et qui sont nombreux. La gestion calamiteuse du Stade de France, Lola tuée par une Algérienne en situation irrégulière, les manifestations ce week-end contre les bassines avec de trop nombreux gendarmes blessés. C'est la vie d'un ministre de l'Intérieur, me direz-vous. Mais il y a un autre péril pour Gérald Darmanin et il se joue dans les arcanes du pouvoir. C'est de jongler avec le « en même temps » d'Emmanuel Macron. D'où cette impression régulière que le ministre de l'Intérieur alterne les coups de menton et des décisions bien moins guerrières sur l'immigration. Voilà donc ce que ça donne, le « en même temps-tisme » dans la bouche de Gérald Darmanin.
J'ai résumé les choses en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau, et être méchants avec les méchants, c'est-à-dire ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. On doit aider ceux qui travaillent, on doit aider ceux qui bossent, et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance.
Voilà, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, la formule a été moquée. Mais l'enjeu derrière ces mots, il faut bien le voir, c'est d'arriver à faire adopter cette nouvelle loi sur l'immigration. Le passage est étroit car la précédente loi en 2018 avait fracturé la majorité macroniste d'alors. Gérald Darmanin n'a pas de marge.
Olivier Bosse pour RTL, on reviendra justement sur les propos du ministre de l'Intérieur et qui prône cette immigration pragmatique ou plutôt sur la réalité de l'immigration en France. Combien de personnes, combien de titres de séjour? Combien de personnes visées par des expulsions? Les chiffres, en fait, derrière les fantasmes, ce sera juste après le journal.
Les évêques réunis à Lourdes à partir d'aujourd'hui.
Un an, oui, après la publication du rapport de la commission Sauvé sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église. Le sujet reste particulièrement sensible, plus encore après les révélations mi-octobre concernant l'ancien évêque de Créteil, Michel Sentier, accusé de voyeurisme et sanctionné dans le plus grand secret. Patrick Tégéraud, vous êtes à Lourdes pour RTL. Il y a encore beaucoup à faire sur le volet transparence.
Et oui, encore une fois, ce sera le principal chantier de cette conférence des évêques de France. Dans son discours d'ouverture tenu à huis clos ce matin, le président de la conférence n'a pas éludé le récent scandale de l'évêque de Créteil et il a appelé, comme il l'avait fait lors de la révélation de l'affaire, à une plus grande transparence. Car il ne peut pas y avoir d'impunité dans l'Église, ce sont ses propres mots. Les évêques vont donc partir d'un constat, il y a des tensions entre les exigences du droit canonique et les pratiques de la justice française. Et les évêques vont donc travailler pour changer les procédures trop souvent perçues comme obscures, secrètes. Lundi, les évêques vont recevoir les 9 groupes de travail créés en novembre 2021. Ils réunissent des religieux, des laïcs, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et les abus de pouvoir au sein de l'Église. Les collectifs de victimes, près de 330 000 en 70 ans, et les croyants en colère pour lesquels il ne peut y avoir de confiance en vérité, attendent un coup d'accélérateur vers la transparence et l'indemnisation des victimes.
Patrick Tégéraud à Lourdes pour RTL.
À l'étranger à présent, les États-Unis se disent de plus en plus préoccupés par une possible frappe nucléaire russe en Ukraine.
Nous surveillons ça du mieux que nous pouvons, explique la Maison-Blanche. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Cette inquiétude, elle émane notamment d'une réunion secrète qui aurait eu lieu entre des généraux russes pour évoquer l'utilisation de cette arme nucléaire.
Oui, pour discuter du moment et de la manière dont Moscou pourrait, le conditionnel est important, pourrait utiliser une arme nucléaire parmi l'éventail des possibilités stratégiques en Ukraine. Des conversations qui montrent surtout à quel point Moscou est dos au mur dans une impasse tactique sur le champ de bataille. C'est un article du quotidien américain New York Times qui distille ses confidences. Il faut donc comprendre que le renseignement américain qui laisse fuiter ses informations est très bien introduit dans l'appareil militaire et politique russe. On se souvient que les États-Unis avaient annoncé l'invasion en Ukraine, une façon de rappeler « Nous sommes au courant de tout ce que vous préparez ». Oui, la Russie possède des stocks importants. Oui, il y a des menaces, y compris de Vladimir Poutine. Oui, la question, on le voit, est envisagée en haut lieu. Mais à ce stade, il n'y a pas de mouvement qui indiquerait que les Russes se préparent à attaquer avec une arme nucléaire.
Julien Fautra pour RTL.
RTL Midi. Elle ne chante plus et on le regrette, mais Céline Dion a donné rendez-vous à ses fans au cinéma.
Oui, la star québécoise dont l'état de santé inquiétait ces derniers mois avait d'ailleurs dû reporter plusieurs de ses représentations. Mais elle sera à l'affiche d'une comédie romantique en mai prochain, Stephen Bellery.
Oui, un film qu'on attend depuis longtemps. Il a été annoncé il y a plus de 2 ans. Le projet a même changé de nom, de date de sortie. Le tournage s'est déroulé fin 2020, début 2021. Mais Céline Dion vient tout juste de partager une photo de tournage. On la voit accroupie sur un canapé aux côtés de l'acteur Sam Hugan, star de la série Outlander. Céline Dion jouera son propre rôle. Elle a donc la même coiffure qu'à son habitude. N'allez pas chercher une transformation absolument dingue. Love Again, c'est le nom du film, est attendu en salle en France mi-mai. On a vérifié avec Sony et Pictures, il n'a pas encore de date pour la France. C'est un remake d'un film allemand, Coup de foudre par SMS. Il raconte comment une femme qui vient de perdre son fiancé commence à lui envoyer des textos pour faire son deuil. Le numéro a été réattribué à un autre homme. La musique de Céline Dion lie les deux personnages. Elle y jouera donc un rôle de mentor. Ce qu'on sait, c'est que la bande originale comprendra au moins une chanson inédite de Céline Dion. 2023, année du comeback. Après des soucis de santé, des spasmes musculaires liés à sa ménopause, la chanteuse reprendra bien sa tournée mondiale Courage. Le 24 février à Prague, Claudette Dion a confié à la presse québécoise que sa sœur avait même commencé les répétitions. Première date française aux Vieilles Charrues, le 13 juillet, avant 6 concerts, tous complets à la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe.
Merci beaucoup, Steven Bellery.
Formidable, ça, comme information, Céline Dion en France.
Mais on attend ça avec impatience. Ça fait plus de 2 ans que les dates ont été reportées. On savait qu'elle avait commencé avant la pandémie, hein, sa tournée, mais là, c'était les soucis de santé qui avaient décalé les concerts.
Vous serez au rendez-vous, Pascal, je le sens.
On ira ensemble, si vous voulez.
Mais avec plaisir, cher ami.
Du foot avant les concerts de Céline Dion. Dès ce soir en Ligue Europa, Nantes peut encore se qualifier pour les 16e de finale en allant battre l'Olympiakos. Ce sera à 18h45. À 18h45 aussi, Monaco bien placé qui reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Déjà qualifié, Rennes affronte les Chypriotes de l'Arcana. Et puis en Ligue Europa Conférence, Nice se déplace sur la pelouse de Cologne à 21h. En bref, un mot de rugby pour vous dire que Fabien Galthié a décidé de titulariser le pilier Cyril Bailly face à l'Australie samedi. Ce sera le premier test automnal du 15 de France. La météo, là aussi, c'est l'automne. On vous retrouve,
Peggy
Broche.
Complètement, un temps agité, bien perturbé, avec beaucoup de vent et des pluies soutenues entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, jusqu'au sud-ouest. En tout cas, on a un bon cumul de pluie. Pareil du côté de la région PACA et des Alpes, avec de la neige à haute altitude. Entre la Bretagne et la Normandie, un peu moins de pluie, ça y est, la perturbation est passée. Peut-être quelques éclaircies dans l'après-midi. Le tout sous des températures en baisse, mais toujours au-dessus des normales, de 13 à 17 au nord et 16 à 23 au sud.
Merci, Peggy.
L'immigration et la vérité des chiffres. Eh bien, nous en parlons dans une seconde avec Anne Lenaf.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes.
RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Une immigration pragmatique, voilà ce que défend Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après avoir présenté hier les grandes lignes du projet de loi immigration. Deux volets, on l'a dit sur cette antenne, un meilleur suivi des personnes à expulser, une régularisation facilitée pour certains avec la création de titres de séjour pour les métiers en tension. Mais derrière ces annonces, derrière les fantasmes parfois autour de l'immigration, eh bien il y a des faits, des chiffres. Bonjour Anne Lenaf.
Bonjour à tous.
D'abord, quand on parle des étrangers en France, on parle de combien de personnes ?
Alors, les étrangers en France, c'est 5,1 millions de personnes sur 67 millions de personnes qui vivent en France. Sur ces 5,1 millions, il y en a 4,3 qui ne sont pas nés en France et 800 000 qui sont nés en France, mais avec une nationalité étrangère. Donc, on arrive à 5,1 millions d'étrangers. Ça fait 7,7% de la population. Et il ne faut pas confondre avec les immigrés, parce qu'il y a des gens qui sont considérés comme immigrés en France, mais qui sont devenus français et qui sont encore comptés comme des immigrés, puisqu'ils ne sont pas nés français en France.
Mais qui ne sont plus étrangers, du coup.
Voilà.
Mais on est d'accord qu'on ne compte pas les touristes qui passent 15 jours ou 3 semaines et qui sont sur notre sol français pendant ce temps-là. Est-ce que c'est plus qu'avant, ce chiffre ?
Oui, toujours selon l'INSEE, c'est incontestable. La population étrangère en France, elle augmente en nombre et en proportion au fil des années. Je vous parlais de 7,7% de la population en 2021. C'était 5,9% en 2010 et 6,5% en 1975. En fait, jusque dans les années 70, la France a besoin de main-d'œuvre. Elle fait donc venir beaucoup d'étrangers, notamment de ses anciennes colonies, essentiellement des hommes, pour travailler. Puis avec la crise, cette porte-là, si on peut dire, s'est refermée. Et maintenant, on n'est plus sur de l'immigration familiale. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des étrangers qui arrivent en France, ce sont des étrangères, ce sont des femmes.
Pour ce qui est de l'immigration légale, est-ce qu'on sait pour quelles raisons ces étrangers viennent en France ?
Alors, pour les arrivées légales de l'an dernier, c'est les derniers chiffres dont on dispose. Le premier motif, c'est pour faire des études. Ce sont des visas étudiants. Ensuite, il y a le motif familial, le regroupement familial. Puis des raisons humanitaires et enfin des raisons économiques. Au total, l'année dernière, 270 000 titres de séjour pour immigration légale ont été délivrés. Ça, c'est évidemment, comme vous le disiez, Pascal, hors visa touristique qui ne sont pas comptés dans cette catégorie-là.
Alors le regroupement familial fait toujours l'objet d'un certain fantasme. Qui peut le demander? Qui y a droit?
Alors c'est très encadré. Hein. C'est un étranger qui vit en France de façon régulière, qui peut faire venir sa famille, mais il y a beaucoup de conditions. D'abord, il faut être en France depuis un an et demi. Il faut avoir des revenus suffisants pour pouvoir faire vivre sa famille, un logement adéquat. L'époux ou l'épouse qu'on veut faire venir doit être majeur. Il ne peut pas y avoir de regroupement familial dans des familles polygames, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire venir sa deuxième ou sa troisième femme et les enfants qui vont avec. Et on peut
c'est
pas non plus faire
bon
venir.
Sens.
C'est la loi, c'est légal et c'est assez logique. Et on ne peut pas faire venir non plus, et c'est tout aussi logique, une personne que la France considère comme dangereuse.
Donc ça, c'est pour ce qui est de l'immigration légale. Et l'immigration illégale, alors?
Alors, par définition, c'est assez compliqué d'avoir à mesurer, des chiffres. Puisque c'est illégal, donc personne ne va se déclarer illégal et sans papier en France. C'est impossible à savoir. On a des estimations quand même. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle de 600 à 700 000 personnes illégalement sur le territoire français. C'est très compliqué à évaluer parce qu'il y en a qui veulent venir en France, il y en a qui considèrent la France comme un pays de transit pour aller ensuite notamment en Grande-Bretagne. Donc ces chiffres qui n'existent pas sont très fluctuants aussi quand on cherche à faire des estimations. C'est aussi une fourchette que donnent les chercheurs, ce 600 à 700 000, en se basant sur un autre paramètre, c'est les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. C'est une aide qui est accordée aux gens qui n'ont pas de papier, mais qui ont besoin quand même d'être soignés pour des pathologies très graves. Il y en a 370 000 en France et on estime qu'il y a un clandestin sur deux qui la demande. Donc si on multiplie ce chiffre par deux, on retombe aussi sur cette fourchette de 600 à 700 000.
Alors c'est vrai qu'un chiffre parfois chasse l'autre et que si on voulait faire une synthèse, moi je retiens de ce que vous nous dites qu'il y a environ 260 000 titres de séjour qui ont été accordés à des immigrés non européens. Hein, nous sommes d'accord.
Absolument.
L'an passé. Donc en 5 ans, ça fait 1 200 000 personnes en gros qui sont venues sous la période d'Emmanuel Macron. Nous sommes d'accord.
Ça dépend de la durée des titres de séjour. Bon. Il y en a qui durent un mois, il y en a qui durent un an.
C'est entendu. Mais est-ce qu'on sait combien de gens repartent? Parce que c'est souvent une question. Est-ce que ces gens restent? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Ou est-ce que c'est quasiment impossible de savoir le nombre de gens qui repartent?
Avec ce que je vous disais sur le nombre de gens qui ont eu un visa, ceux qui restent alors que leur visa a expiré, ceux qui repartent, ces chiffres-là, on ne les a pas. On
s'est aussi
qui a fait tout le service de justice, on a cherché.
Oui.
Ces chiffres-là, on ne les a pas trouvés.
Donc, il y a eu 1 200 000 titres de séjour, je le répète, sous le quinquennat Macron, et on ne sait pas combien sont repartis dans cette période-là. On n'a pas parlé non plus des demandes d'asile. Il y en a à peu près 130 000 par an, d'asile. Mm-hmm. Je ne sais pas combien sont acceptés, d'ailleurs. C'est généralement de l'ordre de 10 ou 20% hein, des demandes. Et souvent, ces demandes d'asile viennent des pays de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire, du Bangladesh, de la Guinée, de la Turquie, qui sont souvent les premiers pays demandeurs.
Pour revenir à l'actualité très récente, Gérald Darmanin l'a dit hier, le gouvernement veut mieux suivre les personnes à expulser, hein, celles qui sont visées par ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Est-ce qu'on sait, Anne, aujourd'hui combien de personnes sont visées dans le pays par ces OQTF? Et pour combien de retours réels? Est-ce que ça, c'est mesurable?
Alors, on sait, on en a parlé, hein, le nombre de taux d'exécution des OQTF en France, il est très faible, puisqu'au premier semestre 2021, il y en a eu 62 000 prononcés, c'est-à-dire 62 000 personnes à qui on a dit « vous devez partir ». Le taux d'exécution de ces OQTF a été de 5%. Et Gérald Darmanin estime que ce chiffre est sous-évalué parce qu'il ne prend pas en compte les personnes qui sont retournées dans leur pays d'origine sans rien dire, sans que la police n'intervienne. Et ça aussi, c'est un phénomène qui est très compliqué à mesurer.
Merci beaucoup Anne Le Hénaff. On espère qu'on a apporté en tout cas quelques réponses.
C'était très factuel et c'est ça qui est le plus important.
C'est ça. C'est ce qu'on
je reviendrai bientôt avec d'autres chiffres.
Ah bon?
Si vous voulez.
Ah bah avec plaisir, on vous accueille, on vous ouvre la porte tous les jours si vous le souhaitez, Anne Le Hénaff. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Il y a un peu de retard au Goncourt.
Mais le Goncourt, alors que Bernard Lehu nous avait dit, c'est toujours à 12h45, ils sont toujours pile à l'heure. Et manifestement, Bernard, ils sont en retard. Ça rime.
Mais oui, ils sont en retard.
Voilà, qu'est-ce qu'ils font?
C'est presque une première. Donc, est-ce que les délibérations sont beaucoup plus serrées que prévu, ce qui est possible, hein, puisque je vous expliquais tout à l'heure que celui qui faisait figure de favori, Giuliano d'Ampoli, a été récompensé la semaine dernière par l'Académie française. Il se dit aussi que les Renaudot, aujourd'hui le prix Renaudot, le jury est également extrêmement partagé. Ben voilà, c'est peut-être une indication que les délibérations sont beaucoup plus compliquées qu'habituellement. Donc on attend.
On va laisser quelques minutes, quelques instants plutôt supplémentaires au jury pour se décider. On marque une courte pause et on vous retrouve tout de suite, Bernard, pour parler de ce Goncourt 2022 qui va bien finir par tomber quand même. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
LVT, c'est l'heure de se mettre à table et c'est surtout l'heure d'avoir le Goncourt, Bernard Lehu. Dites-nous tout.
Alors, donc, ça vient d'être annoncé pendant la page de pub. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, le prix est attribué à Vivre Vite de Brigitte Giraud, publié chez Flammarion.
C'était votre favorite, donc, Bernard, hein, vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, ben voilà, oui.
C'est le pitch. Cas,
et alors, non, alors je précise qu'on comprend le retard parce qu'elle a été élue au 14e tour.
Ah ouais.
Et avec la voix du président Didier Decoin qui compte double face à Giuliano D'Ampoli, justement, là, ce fameux lauréat du Grand Prix de l'Académie française, récompensé la semaine dernière, dont je vous disais qu'il faisait figure de grand favori. Donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai débat au sein des Goncourt. Est-ce que malgré tout, on peut récompenser encore D'Ampoli et réaliser un doublé? Il a fallu attendre le 14e tour et la voix prépondérante du président qui a tranché.
Mais 14 tours, c'est déjà arrivé dans l'histoire des Goncourt ?
Oui, il y a eu des précédents. Je crois qu'on est même, il y a eu des années, on est allé encore plus loin. Mais en effet, c'est assez exceptionnel et on comprend ce retard qui était de plus de 5 minutes, ce qui est très rare hein, dans l'histoire des Goncourt.
Parlez-nous de ce livre alors, Bernard, vous qui l'avez lu.
Alors, il faut dire que ça a vraiment été un des grands coups de cœur de Laissez-vous tenter dans cette rentrée littéraire. On en a parlé très tôt, dès la fin août. C'est un livre absolument bouleversant. Brigitte Giraud revient sur la mort dans un accident de moto en 1999 de son mari. Elle avait raconté hein, déjà la sidération qui suit une telle tragédie dans un premier livre qui s'appelait À présent, il y a 20 ans. Et alors ici, Brigitte Giraud cherche à donner des réponses à toutes les questions sur les circonstances du drame qui la hante donc depuis deux décennies. C'est le livre, si vous voulez, des si et si son mari n'avait pas emprunté cette moto qui n'était pas la sienne et si elle avait été là ce jour-là, n'avait pas laissé son compagnon aller chercher leur fils à l'école, etc. Alors c'est un livre sur un drame intime, mais c'est ce qui en fait un roman. C'est aussi un texte qui va bien au-delà de ce drame personnel. C'est un livre qui témoigne d'une époque, le début des années 2000, un mode de vie, l'évolution du rapport au sein d'un couple, par exemple, le rôle des nouveaux pères. Voilà en quoi c'est un livre qui nous parle à tous. Et au final, je dirais que c'est le livre est bouleversant, bien sûr, mais au final, c'est un livre de l'apaisement pour une femme que le destin avait brisée il y a 20 ans. Et Brigitte Giraud est vraiment une écrivaine qui mérite tout à fait cette récompense.
Vous allez nous donner, bien sûr, le Renaudot dans une seconde, mais j'observe que ce n'est pas un Gallimard. J'observe également qu'après le prix pour Annie Ernaux, c'est une nouvelle femme qui est récompensée en littérature. C'est la première femme d'ailleurs depuis Leïla Slimani pour le prix Goncourt. Oui. Et le prix Renaudot ?
Alors le prix, je précise juste pour Brigitte Giraud, donc elle a 62 ans, qu'elle a vraiment toute une œuvre hein, derrière elle, une dizaine de romans, des nouvelles. Elle avait d'ailleurs eu le prix Goncourt de la nouvelle en 2007, donc les jurés ici chez Drouin l'avaient déjà repéré. Quant au prix Renaudot, alors c'est un choix assez audacieux, c'est Simon Liberati pour son livre Performance chez Grasset.
Audacieux, ça veut dire que ça ne vous a pas beaucoup plu ?
C'est-à-dire que Simon Liberati alors, est un vrai styliste, mais ce sont des livres qui ne sont pas toujours forcément d'un accès grand public, même si ici le thème a une résonance grand public, puisque en deux mots, c'est l'histoire d'un vieil écrivain qui a perdu l'inspiration, qui est malade, et d'un seul coup, il va renaître en quelque sorte en écrivant un scénario consacré aux Stones, aux Rolling Stones, donc un livre malgré tout rock'n'roll. Et donc ça n'est pas un choix, ça n'est pas Gallimard, puisqu'ici c'est Grasset, donc le groupe, l'un des grands groupes rivaux de d'Hachette,
Madame Giraud.
Lagardère.
Madame Giraud.
Je précise tout de même que Flammarion, vous disiez tout à l'heure Pascal, que ça n'est pas Gallimard, mais si, Flammarion fait partie du groupe Madrigal, qui est donc le grand groupe présidé par Antoine Gallimard et qui réunit la maison mère Gallimard et cette belle.
Ce n'est pas la collection blanche,
Flammarion. Ça n'est pas la blanche,
c'est ce en quoi je pensais. Madame Giraud est déjà arrivée là.
Mais vraiment un très beau livre. Je vais y aller là, je vais filer et puis je vous dirai ça un peu plus tard. On se retrouve notamment à 14h, je pense. qu'on aura la première réaction de vraiment cette très belle écrivaine qui mérite tout à fait ce prix pour un très très beau livre, comme vous l'avez compris.
Eh bien, merci Bernard. En tout cas, si vous pouvez être à l'antenne entre 13h et 14h avec nous, peut-être qu'il y aura des réactions avec les auditeurs et pourquoi pas vous écouter. Ça sera toujours avec plaisir, cher Bernard. Il est 12h58, on va marquer une pause. Le rappel des titres, les auditeurs et Monsieur Sinic est venu. Monsieur Sinic a divorcé de l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'il nous disait hier. Oui. Je ne sais pas si aujourd'hui vous annoncez votre mariage à nouveau.
Avec Brigitte Giraud.
Brigitte Giraud, pourquoi? Parce qu'elle
vient de gagner le concours.
Ah oui, donc vous. Bah, écoutez, c'est bien, je ne savais pas que vous lisiez également. 12h58.
Il est odieux, je m'en vais.
RTL Midi.
RTL. Et 13h01.